Alors, ce matin, j'aimerais donc aborder un sujet qui peut-être pourrait donc être un peu difficile pour des personnes qui n'ont pas une famille, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariées. Mais c'est un sujet qui est important d'aborder parce que quelle est la preuve de notre amour et comment est-ce qu'on prouve notre amour? Par le temps que nous passons avec les uns avec les autres, bien sûr, en tant que membres du corps de Christ, mais aussi donc dans la famille. Dans la famille. Et donc, si je devais alors préparer un séminaire sur la famille, comme j'ai fait donc il y a 3 semaines, donc j'aimerais établir que premièrement, concernant la famille, toute autorité fondamentale pour l'enseignement est la parole de Dieu. J'aimerais donc finir en parlant de la prière donc pour les enfants et comment nous prions pour les enfants. Et si tu n'as pas des enfants donc physiques, mais peut-être le Seigneur t'a donné d'emmener des âmes à Christ, donc prends cette même attitude envers des enfants spirituels. On est tous appelés à nous multiplier. On est tous appelés donc à multiplier les disciples que nous sommes. Et je vais donc finir en parlant des outils que Dieu nous a donnés pour élever nos enfants selon Dieu. Je crois que c'est vraiment important. Je savais que c'était les vacances, donc je ne savais pas s'il y avait des parents qui seraient absents. Mais vraiment, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de ce sujet. Parce que la famille est vraiment attaquée. Donc en 2013, donc nous avons participé à la marche pour tous, la manifestation pour tous, qui était bien sûr contre donc ce qu'on appelle le mariage donc pour tous, le mariage homosexuel, etc. Aujourd'hui, donc, vous savez, il y a des pays dans lesquels il y a des personnes qui se marient même avec les animaux. Pas d'une manière sexuelle ni rien, mais voilà, il y a des gens qui établissent donc, des actes de mariage auprès des animaux pour qu'ils puissent hériter, etc. Ça s'est fait dans des pays. Mais en 2013, il y avait vraiment donc, une détermination, même d'enlever le mot père et mère des extraits d'actes de naissance. Donc il y avait vraiment une détermination donc, de bannir le père. Et en fait, donc, ce qui a été très, très triste, c'est que pendant toutes ces grèves sur la réforme des retraites, etc., le 23 janvier 2020, donc, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes a été validée au Sénat à 160 voix contre 116. Bien sûr, donc, d'une détermination. Et moi, j'ai entendu donc des documentaires, mais aussi j'ai entendu des personnes qui disaient, mais on n'a plus besoin du père. On n'a plus besoin donc d'un géniteur. On n'a plus besoin de la figure paternelle dans la famille. Donc la dernière fois que j'ai lu la Bible, c'était que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et bien sûr, donc le résultat de cette union dans le cadre du mariage, donc souvent, c'est bien sûr les enfants. Les enfants. Donc pour établir, donc voilà, il y a des articles très intéressants par rapport à cela, comment ils veulent donc complètement donc dénaturiser le fait que des enfants naissent d'une père et d'une mère. Alors la famille donc, elle est attaquée. La famille est attaquée. Et c'est pour ça qu'il faut que nous on ait donc des principes vraiment bien établis dans la parole de Dieu concernant la famille. C'est très important. Ouvrons nos Bibles à Matthieu chapitre 19 et verset 4. Matthieu chapitre 19 et verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas vu et lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la réponse de Jésus. Alors, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas vu, n'avez-vous pas entendu, n'avez-vous pas lu dans les lois de Moïse, dans les 5 premiers livres, dans le Pentateuque, depuis la Genèse, il a créé l'homme et la femme. Et c'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, quand les enfants naissent, il faut qu'ils soient entourés et encadrés par ceux qui vont leur apprendre dès leur plus tendre enfance les saintes lettres de Timothée, chapitre 3, verset 15. De Timothée 3, 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. Combien de vous, vous avez eu le privilège d'avoir des parents qui vous ont donc inculqué dès votre tendre enfance les saintes lettres qui par la suite vous ont rendu sage au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous, en tant qu'Église, on aime bien la mémorisation. Hein? Donc vous savez bien, encore une pub, pour donc psaume 119, 1 à 12, le mois de février. Mais il y a quelques années, nous avons donc, pendant tout l'été, on a donné la responsabilité au moniteur de la classe école de dimanche à l'époque de faire mémoriser tous les enfants depuis le plus tendre âge. Ceux qui avaient 2-3 ans, c'était enfants obéissez. Ensuite, c'était enfants obéissez à vos parents. Ensuite, c'était enfants obéissez à vos parents, car cela est juste. Donc, il y avait donc les petits, les juniors, les cadets. Et ensuite, les jeunes et les ados, ils ont mémorisé. Et il y a des jeunes qui ont mémorisé des chapitres entiers, un chapitre par semaine. Et à la fin donc de cet été, on a eu un moment formidable. On a célébré, donc un dimanche matin, Denise a fait un grand gâteau en forme de Bible. On a fait que tous les enfants s'assoient donc depuis leur parage. On les a donc liés avec un ruban d'or, donc en or, etc. En ruban, donc voilà, doré. Et nous avons insisté sur, et il y a eu des enfants qui sont venus devant, qui ont répété, et donc c'est là où Brian avait écrit ce chant, donc ce que j'ai appris avec mon intelligence, inscris-le sur mon cœur. Seigneur, je ne veux pas seulement l'apprendre, mais je veux. Et le premier couplet disait, pourquoi est-ce si important d'apprendre tous ces versets? Pourquoi c'est si important de les serrer dans mon cœur? Car je sais que ce que j'ai appris avec mon intelligence, tu l'inscris dans mon cœur. Et donc, bien sûr, on a vu à l'époque, et on a entendu des témoignages, et on a vu des enfants qui sont donnés à Christ depuis l'âge donc de 5, 6, 7 ans. Tous nos enfants, nos 7 enfants, ils ont leur anniversaire, et aussi ils ont leur anniversaire spirituel. Et Denise faisait toujours donc un gâteau en forme de gélatine, en forme de cœur. Et là, on parlait de comment ils étaient venus à Christ. C'est tellement important que l'enfant, dès sa plus tendre enfance, il connaisse les saintes lettres. Par qui? En le cas de Timothée, c'était Loïs et Eunice, donc sa grand-mère et sa maman. Et alors, c'était clair et net que même s'il avait un père grec, qui n'était pas du tout dans la foi, il avait dans sa vie des femmes qui avaient une foi sincère pour laquelle elles sont reconnues encore aujourd'hui. Donc, dès ton enfance. Alors, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle vient pour discerner les intentions les plus profondes de notre cœur. Quand l'enfant commence à grandir dans le Seigneur et commence à ce que la parole de Dieu soit dans son cœur, il commence à réfléchir selon la pensée du Père. Et le Saint-Esprit commence à parler à cet enfant. Vous savez, quand une personne se convertit, des fois ils me disent, mais donne-moi une liste des choses qu'il faut que je dois faire et des choses que je ne dois plus faire. Je dis, mais non, mais ça serait très facile que je te donne cette liste. Laisse que le Saint-Esprit convainc ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit, en lisant un Jean, par exemple, cette semaine, j'ai demandé à quelqu'un, lis un Jean, les 5 chapitres, c'est de courts chapitres, lis-les tous les jours pendant une semaine. Et reviens me voir la semaine prochaine. Et moi, je sais que le Seigneur a commencé à parler à son cœur. Pourquoi? Parce que, en lisant la parole de Dieu, en permettant que le Saint-Esprit nous parle, donc c'est là où la conviction du péché, la conviction de la justice de Dieu, la conviction donc de la sainteté de Dieu, vient prendre place en nous. Et surtout, nous voulons que les enfants grandissent et qu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence et à l'âge de la jeunesse et à l'âge de jeunes adultes et devenir des adultes et devenir donc des parents à leur tour. On veut qu'ils soient bien ancrés et bien établis dans la parole de Dieu. Vous savez, il y avait un couple qui avait des difficultés, donc le pasteur est venu les rendre visite. Ils ont passé une heure à parler, à discuter. L'un ou l'autre a fini par se demander pardon, se réconcilier, etc. Et alors, c'est là où le pasteur a dit, j'aimerais vous lire un passage de la Bible, mais je n'ai pas emmené la mienne. Est-ce que vous pouvez, m'emmener votre Bible? Alors donc, le papa dit au petit garçon, tu sais, amène-nous le livre qui est sur le chevet, juste à côté de notre lit, celui qu'on lit tout le temps. Il revient avec le catalogue d'IKEA. C'était pas la Bible. Quel enfant avait vu? C'était pas, donc, voilà, c'était pas exactement ce que le père voulait faire transmettre comme message. Mais le problème, c'est que le couple était en problème parce que il n'ouvrait pas la belle Bible qu'ils avaient reçue le jour de leur mariage. Vous savez, cette Bible blanche, avec les pages dorées parfois, ou une Bible Thompson. Est-ce qu'elle reste là, donc, pendant 20 ans? Donc, oh oui, ça, c'est la Bible de notre mariage. Mais il faut la lire. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est la même parole qui va donc former, qui va donc établir donc les principes de la foi dans le cœur des enfants. La Bible dit aussi en 2 Pierre chapitre 1, verset 3, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Par la parole, par les promesses, et nous devenons participants de sa nature divine par ses divines promesses, par ses précieuses promesses. Alors il faut apprendre aussi à l'enfant quelles sont les promesses. Combien de promesses dans la Bible, vous vous rappelez? 8321 promesses. C'est le frère Waylon Moore qui nous avait donné donc cette information. Et donc après, il avait décortiqué les promesses d'après ci, d'après ça. C'était extraordinaire, c'était il y a des années. C'est un frère qui a 91 ans, pour lequel on a prié dimanche dernier. Et donc, qui va mieux, merci Seigneur, il s'en sort, son cœur, voilà, il s'en sort et il va continuer parce que c'est un homme qui voyage dans le monde entier en prêchant, en enseignant, à 91 ans, rien ne l'arrête, il est convaincu de l'autorité, de la puissance de la parole dans la vie. Mais nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons la Bible, la révélation divine, qui est plus que la révélation naturelle, les étoiles, la lune, le paysage, la révélation naturelle, mais la révélation et la volonté des dieux en ce qui concerne le foyer et la vie de famille. Alors, le psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, rappelez-vous, et je fais ce geste quand je aborde ce sujet. Donc, la lampe de David, c'était une lampe à l'huile. Alors, il faisait un pas et ça illuminait ici. Il faisait un pas, ça illuminait là. Mais derrière, les ténèbres arrivaient, devant les ténèbres étaient bien présentes, mais partout où il allait, pas à pas, la parole était comme une lampe. Mais des fois, on met la lampe du côté, oh, moi je connais. Et on commence à marcher, et on commence à marcher, et on se casse la figure, et on a des difficultés, et on se rend compte qu'on a laissé la lampe du côté. Le cœur de Dieu, c'était d'envoyer ses enfants. Et donc, dans la voie des bénédictions. En Deutéronome 11 et verset 18, Deutéronome 11, verset 18, ne faites pas comme des étudiants de l'école biblique où j'étais il y a quelque temps et je disais, on va lire dans le livre de 1 Corinthiens. Il y avait un qui cherchait un Josué. Il dit, non, c'est pas là. Et en fin de compte, je les ai fait lever pour qu'ils me disent les noms des livres de la Bible, par cœur. Ils n'ont pas tenu debout. Hein. Le Nouveau Testament, au moins. Même pas le Nouveau Testament. Je disais, mais ce n'est pas possible, c'est une école biblique. Ce n'est pas possible, on est dans la parole. Deutéronome 11, et verset 18 nous dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos fronts, sur vos mains, pardon, et selon comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront donnés au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, vous marcherez dans toutes ses voies et vous serez attachés à lui. On veut que nos familles, on veut que les familles qui viennent ici dans cette église locale soient des familles de la parole de Dieu, de prière, parce qu'ils voient cet exemple dans leurs parents, parce qu'ils voient le conseil qui vient de la part de Dieu au travers de la bouche des parents. Vous vous rappelez ce verset dans le psaume 32 et verset 8 dans lequel Dieu parle à David, il lui dit « David, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai mon regard sur toi et je serai à tes côtés pour te conseiller. » Ça, c'est l'attitude d'un père et d'une mère physique et aussi d'un père et mère spirituel, je serai là pour te conseiller, je serai là pour donc te montrer qu'il y a une voie à suivre. Un foyer réussi est bâti sur une bonne compréhension du but de Dieu pour notre foyer. Quand un couple va se marier, moi je leur dis, ok, vous vous mariez, vous vous aimez, on est en train de cheminer, vous préparez votre mariage, mais dans quel but est-ce que Dieu vous unit? Quels sont les versets qui commencent à créer votre projet? Quelles sont donc les promesses de Dieu qui commencent vraiment à vous montrer que si Dieu vous unit, c'est dans un but précis. C'est dans un but de valent mieux qu'un, la Bible dit. C'est le fait aussi que le Seigneur va établir que ce couple doit être réuni, que ces deux personnes doivent être réunies pour pouvoir accomplir la volonté et le dessein de Dieu. Donc par la suite, Dieu a ses desseins. Proverbe chapitre 19 et verset 21. Proverbe 19 et verset 21. Dieu a des desseins établis, préparés pour chacun de nous, pour chacun de nos foyers, pour chacun aussi de nos enfants. Verset 20 nous dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Un des outils qu'on va voir tout à l'heure, c'est que les parents doivent chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et quand des parents vivent dans la volonté de Dieu, il y a du contentement, il y a de la satisfaction, il y a donc un désir d'accomplir les desseins que Dieu a établis. En son temps, Dieu se servira de nous. Mais il se servira pour qu'on puisse nous parler aux personnes par rapport à cette pensée d'éternité qu'il y a dans leur cœur. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et combien de fois il y a des personnes qui disent, oh là, Jésus revient bientôt parce que cette prophétie, donc elle s'accomplit, parce que ceci est arrivé. C'est vrai qu'on est vraiment dans une période dans laquelle on se pose des questions par rapport aux prophéties lisées. Donc, Matthieu chapitre 24, lisez en Luc, et vous verrez qu'il y a beaucoup de prophéties qui ne s'étaient pas réalisées depuis 50 ans, sont en train de se réaliser. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. Nous n'ignorons pas les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. C'est vrai que lui, il arrivera comme un voleur dans la nuit, mais pas pour nous. Nous, on l'attend. Alléluia. Il viendra comme un voleur dans la nuit, mais pour des personnes qui ne l'attendaient pas, pour des personnes qui n'étaient pas préparées. C'est pour ça que nous, on fait tout pour préparer chaque personne autour de nous pour la rencontre avec Dieu, pour qu'aussi ils puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un saint qui est perfectionné par le Seigneur en vue de l'œuvre du ministère pour que le corps soit édifié. C'est comme ça que le corps de Christ est édifié. C'est comme ça que Dieu touche chaque vie et chaque cœur à tel point que chacun de nous, on devient des multiplicateurs des disciples. On est des multiplicateurs des disciples. Je vous ai déjà dit, si on avait tous un petit bébé dans les bras, mais on n'aura pas le temps de « Ah, oh, cette personne est passée devant moi, il ne m'a pas salué. » Non, mais moi je suis avec mon bébé. Moi je suis ici le dimanche matin, avec le bébé que Dieu m'a donné, spirituel, avec la personne que je suis en train de former, avec la personne donc devant laquelle je suis en train de lui dire, voilà, quand on vient donc au culte, quand l'église se rassemble, on lève les mains, on loue le Seigneur, on adore Dieu, on exprime une prière à haute voix au milieu de l'assemblée pour exhorter, pour encourager. Ça fait partie des multiplicateurs des disciples. Pourquoi? Parce que Dieu veut produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon son dessein. Et il faut que chaque personne qui vient pour la première fois, pour la deuxième fois, qui se convertit, se rend compte, je ne suis pas là seulement pour chauffer le banc le dimanche matin, mais je suis là pour apprendre. Alors c'est pour ça, en parlant d'apprendre, bientôt, donc au mois de mars, on va commencer des cours de base. J'en ai parlé donc avec plusieurs personnes qui veulent faire des cours de base. Les uns sont déjà baptisés, mais ils veulent faire les cours de base parce qu'il y a des bases qui manquent dans leur vie. D'autres vont se préparer pour le baptême. Alors, si tu es intéressé, viens me voir ou appelle-moi. Donc, tu as le numéro sur l'agenda. Appelle-moi et dis, Marc, j'aimerais m'inscrire au cours des bases. Les cours des bases, donc, c'est les samedis après-midi à 16h30, jusqu'à 18h. Et là, donc, on a un temps d'enseignement, un moment de partage pour que les bases soient solidifiées dans vos cœurs. Moi, pour le moment, j'ai au moins 6 personnes qui sont intéressées. Viens me voir si tu n'es pas baptisé, si tu as pris conscience de ce que c'est. Donc, l'importance de se faire baptiser, d'enterrer le vieil homme, Vous vous rappelez, donc, quand Lazare était enseveli, était donc au tombeau, donc sa sœur disait, mais il sent déjà. Mais oui, il faut enterrer le vieil homme, hein. Il faut vraiment l'enterrer pour qu'il soit bien, bien. Donc voilà, ici dans ce baptistère. Donc, on enterre le vieil homme et on ressuscite en symbolisant la nouveauté des vies que nous avons donc commencé à vivre du moment de notre conversion. Amen. Mais alors, si vous n'êtes pas baptisé, tu n'es pas baptisé, viens me voir. Et Adore dit, j'aimerais bien. Donc aussi, donc me préparer pour le baptême. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, le devoir des parents, c'est d'enseigner les enfants. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Combien de parents, ils tiennent à ce principe? Parce que c'est vrai, il y a parfois nos enfants qui arrivent à un certain âge, après 18-19 ans, qui commencent à décrocher. On se dit, mais c'est pas possible. Je l'ai élevé dans la voie qu'il devait suivre. Je l'ai instruit. J'étais là pour lui montrer. Je l'ai formé. Le Seigneur fait la grâce. Le Seigneur fait la grâce. Mais moi, j'ai vu plein de témoignages des personnes qui se sont éloignées de la foi carrément. Et dans leur âge mûr, ils sont revenus. Ils se rappelaient de ce qu'ils avaient reçu. Mais enseignez les enfants. Enseignez-leur. Deutéronome chapitre 6 et verset 7. Inculquez la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant. Alors aussi, on doit pourvoir à leurs besoins. Les parents pourvoient aux besoins des enfants. Mais pas aux caprices. Pas aux caprices. Des fois, quand je suis dans le magasin, je vois des enfants, surtout autour de Noël, des enfants qui tapent les pieds, qui se couchent par terre. Mais moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et je disais, mais alors ces parents, ils doivent être vraiment stressés et sous pression. Hein, parce que non, on pourvoit à leurs besoins, mais pas aux caprices. Alors vous comprenez ce que vous voulez en cela, mais c'est pas parce qu'il y a un film donc qui est sorti au mois de septembre qu'on est obligé d'acheter tous les poupées qui vont avec, les mangas japonais avec un œil au milieu et toutes sortes de choses dans lesquelles on se sent obligé parce que tout le monde le fait. On pourvoit aux besoins mais pas aux caprices. Éduquer l'enfant. Éphésiens 6 et verset 4. Nous commençons donc par le premier verset. Qui nous dit, donc, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. C'est selon le Seigneur, car cela est juste. Ok? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse quand on honore ses parents? La Bible dit, et tu mèneras une longue vie, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vos pères, pas qu'il dit père, hein, mère, père, mais père, écoutez bien, n'irritez pas vos enfants. Alors on peut réfléchir, comment est-ce qu'on peut irriter nos enfants? Comment est-ce qu'on peut provoquer en eux donc du ressentiment? On est humain, est-ce qu'on s'est demandé pardon? Moi personnellement, et Denise vous le dira, mais si j'avais offensé Denise par une parole, par une impatience ou quelque chose devant les enfants, je lui demandais pardon devant les enfants. Parce qu'il faut que les enfants sachent aussi que moi aussi, je sais demander pardon. Moi aussi, je veux me remettre en question. Et jamais je vais oublier quand Brian, un jour, à l'âge de 9 ans, après un message que j'avais donné, le jour de la fête des mères, si je me rappelle bien, m'a dit, papa, le message ce matin, c'était vraiment, vraiment bien, encourageant. Mais vendredi dans la voiture, c'était pas du tout ça. Hein, quand on t'a coupé la route et que tu pouvais pas crier sur le conducteur, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es tourné vers nous et tu as crié sur nous. Oui, j'écoute, Brian. Veux-tu me pardonner? Prie pour moi. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer l'enfant. Il faut lui montrer quelle est la décision à prendre quand il est devant donc une certaine fourche sur son chemin. Parce que c'est là aussi l'attitude des parents. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et la Bible parle de la correction, la Bible parle de la douleur qui est infligée par rapport à la désobéissance. La Bible parle, donc corrige l'enfant afin que tu n'aies pas honte quand il sera grand. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous quand les lois aujourd'hui nous disent on ne peut plus donc donner la fessée à l'enfant, on ne peut plus donc corriger l'enfant, on ne peut plus infliger de la douleur pour que l'enfant sache que c'est par les choses qu'il souffre qu'il apprend l'obéissance. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé. Alors vous, en tant que parent, je sais que des fois, quand je vais parler avec un couple en préparation pour le mariage, l'un est pour la discipline, l'autre est pour le dialogue, l'autre est pour, je vais compter jusqu'à 1, 2, 3, 4. Non. Chez nous, on comptait jamais. Hein. On comptait jamais. Ah non. Si on comptait, ça voulait dire 2-3 fessées. Hein. Alors, bien sûr, avec amour. Quand je parle de la discipline, c'est avec amour. Quand je parle de la correction, c'est avec amour. Ce n'est pas dans la colère. Si on discipline l'enfant dans la colère, on va susciter de la rébellion dans son cœur. Ou il va se dire, la seule fois qu'on me crie dessus, c'est quand je fais des bêtises, alors je vais faire des bêtises. Pourquoi? Parce que, voilà, il pense que c'est la manière donc de susciter l'attention de la part des parents. Mais il faut les éduquer. Alors j'aimerais dire que les moniteurs d'école de dimanche, ils n'éduquent pas vos enfants. Moi, en tant que pasteur, je ne suis pas là non plus pour éduquer vos enfants. On est là pour donner de l'information aux enfants. On est là pour que les enfants grandissent dans leur connaissance de la parole de Dieu. Donc, à part de ce que vous inculquez à la maison. Mais c'est pour ça que les parents doivent être intéressés à ce que les enfants apprennent à l'école du dimanche. Les parents doivent être intéressés, les parents doivent contacter les moniteurs, les parents doivent aider l'enfant à mémoriser le verset qu'on lui a demandé pour le dimanche suivant. Il doit mémoriser avec, peut-être, mais éduquer l'enfant. Bien sûr, être sûr que l'enfant comprend que ce qu'il reçoit comme information, c'est pour appliquer à sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Éduquer l'enfant. Diriger aussi. Les parents dirigent leurs enfants. Ce n'est pas les enfants qui dirigent leurs parents. Attention. L'Église existe depuis bientôt 36 ans. On a eu plusieurs cultures différentes dans l'Église depuis 36 ans. Il y a des années, il y avait une famille qui venait d'un pays lointain, je ne dirais pas lequel, mais dans lequel la mamie et le papy avaient plus d'autorité que les parents. Les oncles et les tantes avaient plus d'autorité que les parents. Et alors, c'était l'enfant qui narguait les parents en disant, non, mais eux, ils ont dit ça, alors vous, vous taisez. Il dit, non, c'est pas comme ça dans la Bible. La Bible dit qu'il faut que l'homme et la femme dirigent leur foyer. 1 Timothée 3:4, si quelqu'un veut aspirer à être ancien, il faut qu'il sache diriger bien sa propre maison. Car comment peut-il prétendre de diriger la maison de Dieu s'il n'arrive pas à diriger sa propre maison? Ce n'est pas donc aux enfants de nous mener par le nez, hein, pas du tout. Même si des fois on a l'impression, non. Mais c'est sûr que quand le premier enfant arrive dans le foyer, bien sûr ça va chambouler la vie, ça va chambouler toutes les habitudes, ça va chambouler vos rendez-vous, etc. Mais c'est vous qui maintenez le contrôle. Aussi, il faut savoir comment aimer les enfants. Tite chapitre 2, verset 4, nous dit que les femmes âgées doivent prendre le temps d'apprendre aux sœurs plus jeunes comment aimer leurs enfants, et leurs maris et leurs enfants. Leur apprendre comment le faire. Il faut savoir comment aimer. Aimer, ce n'est pas céder à leur insistance. Aimer, ce n'est pas, bon, tu m'as tellement cassé les neurones que voilà, tu as ce que tu veux. Non. Pourquoi? Parce que il y a de l'émotion derrière l'amour. Il y a de l'émotion. Vous vous rappelez la femme cananéenne? Elle voulait que Jésus guérisse sa fille. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais je suis venu pour le peuple, pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Vous êtes une femme cananéenne. Je suis pas venu pour vous. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi pareil. Et la fille a été guérie. Mais c'était l'amour d'une mère qui s'est humiliée à tel point de dire, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables. Dans l'amour, il y a de la joie, bien sûr. Le Père du Juste est rempli d'allégresse. Rempli d'allégresse. Celui qui engendre un sage a de la joie. Il y a de la joie. Parfois, il y a du chagrin aussi. Parfois, il y a aussi de la honte, la confusion. Nos enfants nous font rugir parfois. Il est dit dans Proverbe 19, 26, 28, 7. Mais le Seigneur est là pour restaurer et pour guérir. L'amour implique le don de soi. On se donne de soi-même. On s'offre on souffre. Mais surtout, un souci pour leur état spirituel. Job 25, Job se levait chaque matin et il offrait un sacrifice au cas où l'un de ses fils ou filles avait péché et avait offensé Dieu. Ils pouvaient à l'époque le faire à leur faveur. Aujourd'hui, il faut que chaque enfant devienne enfant de Dieu et qu'il offre son propre sacrifice de louange et d'adoration. Qu'il ait sa propre compréhension. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et Job montrait un souci pour l'état spirituel. Nous ne pouvons pas sauver nos enfants, mais nous pouvons prier pour eux. 1 Jean 5, 14 nous dit que quand on prie avec confiance. En cherchant à ce que le Seigneur restaure la santé, l'âme de la famille, ensuite des enfants. En priant, nous tenons ferme dans la foi, croyant que nous avons ce que nous demandons au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous demandons? Quelles sont les valeurs que nous voulons enseigner à nos enfants? Vous savez, dès l'âge de 5 ans, il faut leur apprendre l'honnêteté et toujours dire la vérité. Je me rappelle une fois une sœur au Mexique. Elle me disait, oui, ma maman, elle était vraiment, vraiment pas contente parce que je l'appelle, je lui dis, tu sais, le petit Johnny, il a dit son premier mensonge aujourd'hui. Et elle riait parce que le petit, à 2 ans, avait dit son premier mensonge. Et sa mère lui a dit, mais ça te fait rire? De célébrer le mensonge? De célébrer le fait qu'il a compris une ruse, quoi, donc à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et alors, elle a compris une leçon. On ne va pas célébrer, donc même les petites bêtises, etc. Il faut leur apprendre l'honnêteté, la vérité, tout d'abord, dire toujours la vérité. Pourquoi? Parce que dès le départ, on est de l'être lu et vu de tous les hommes. C'est nous qui allons leur apprendre l'honnêteté. C'est nous qui allons être une lettre lue et vue de tous les hommes. Qui sont les premiers qui nous voient? C'est les enfants. Ils nous entendent. Ils nous voient vivre. Ils nous voient dans nos moments difficiles, ils voient dans les moments de joie, les moments bas, les moments hauts, etc. Nous sommes de l'être lu et vu de tous les hommes. Commençons donc déjà en pensant à l'exemple que nous donnons à nos enfants. Parce que nos enfants vont devenir aussi disciples de Jésus-Christ. Amen. Nos enfants, c'est des futurs disciples. C'est ça le but recherché. Alors on va leur apprendre l'honnêteté. On va leur apprendre aussi la justice. Donc il faut qu'ils comprennent que il y a des choses qui ne sont pas justes, il y a des choses qui sont justes, mais il faut comprendre donc comment équilibrer, il faut comprendre aussi ce qui est important. Denise disait souvent aux enfants, mais sachez quel est le combat que vous menez, et quel est le combat qu'on mène. On a parlé des combats il y a 2 semaines, des fois il y a des combats, et on se rend compte que c'est pas si important que ça. Ça touche pas les côtés éternité, ça touche pas, ça touche pas des fondements. Donc Dieu est juste, il y a une justice. Aussi, on va leur apprendre à considérer les autres, à respecter, à dire bonjour, à valoriser les personnes qui sont là, à ce qu'ils sachent, donc comme Dieu les a valorisés, ils veulent valoriser les autres aussi. Une détermination aussi, donc, d'être ce que nous sommes. On aimerait bien que nos enfants aient 20 sur 20. On leur disait, vous faites le meilleur que vous pouvez. Il n'y a pas de pression. Vous faites le meilleur que vous pouvez. Et on sait que Dieu vous a donné une intelligence, on sait que Dieu vous a donné... Bon, aujourd'hui, il y a tellement de distractions, je ne sais pas comment font les enfants, parce que si vous ne gérez pas les téléphones et l'iPad et ceci et cela, alors je ne sais pas à quel moment les enfants arrivent à faire leur devoir. Mais la Bible dit en Lamentations 3:27, il est bon pour le jeune homme de porter son joug dès sa jeunesse. Amen. Ça veut dire il faut les devoirs, il faut les tâches à la maison, il faut les tâches ménagères pour aider ta femme. Car avant qu'elle soit la maman de tes enfants, c'est ta femme. Donc si tu veux que ta femme ne soit pas trop fatiguée, c'est vos enfants qui vont accomplir des tâches. Ah non, moi je laisse faire, ils peuvent laisser leur chambre comme ils veulent, c'est moi qui passe, c'est la bonne qui passe après, donc pour tout ranger. Ah non, il faut apprendre donc une discipline, il faut qu'ils sachent que voilà, on est ce qu'on est, parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a mis dans un contexte, Dieu les a mis dans une famille, Dieu leur a donné le privilège que tu sois leur parent, et alors c'est eux qui sont soumis à tes règles, soumis aussi donc à ton exemple, soumis aussi à cet amour, cette affection que tu leur montres. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont du mal à dire à Dieu, je t'aime, en tant que père, parce qu'ils n'ont jamais entendu un je t'aime de la part de leurs parents. Dans le temps, dans les générations passées, c'est difficile. Les gens ne s'exprimaient pas, les gens ne disaient pas leurs émotions, ils ne montraient pas leur affection. C'est difficile. Moi-même, j'ai eu affaire à des couples qui allaient se marier, et donc l'un ou l'autre mettait des mois à pouvoir dire « je t'aime » à leur futur mari ou femme. Pourquoi ? Parce que ça ne cadrait pas, ça ne rentre pas dans leur mentalité. Alors c'est pour ça que dès l'âge de 5 ans, l'amour, la justice, l'honnêteté, la vérité, toujours marcher selon ce que tu es. Et alors, bien sûr, avec l'aide de Dieu et avec la grâce de Dieu. Alors, quels sont les outils que Dieu nous a donnés pour élever nos enfants? Premièrement, la prière. La prière. Si un enfant entend les parents prier, ils vont se sentir en sécurité. Si un enfant apprend donc que les parents mettent l'accent sur le fait quand on prie, oui, on ferme les yeux pour ne pas nous distraire, oui, mais on dit des choses qui vont premièrement nous faire prendre conscience de qui est Dieu, même à l'âge le plus jeune, et ensuite communiquer avec lui. Mais aussi dans la prière, il y a aussi apprendre à l'enfant à être à l'écoute de la voix de Dieu. Tout ça, donc, je vais revenir tout à l'heure. La lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Sache de qui tu as appris. Sache de qui tu as appris cette sainte lettre, comme on a lu tout à l'heure, qui peut te rendre sage au salut. Rappelle-toi de qui tu les as appris. Donc, la lecture de la Bible. Qu'il y ait un moment précis. Donc, avant que les enfants partent à l'école, donc, il y avait toujours un petit livret qui s'appelait donc des dialogues avec Dieu. Il y avait toujours donc un passage de la Bible. Parfois, il y avait donc une anecdote, etc. Mais alors, il y avait un moment dans lequel les enfants savaient que les promesses de Dieu sont importantes pour leur vie. Et aujourd'hui, ils sont mariés et ils continuent donc à perpétrer cela, malgré donc toutes les, voilà, les contraintes de temps, etc. Mais la lecture biblique, c'est une clé essentielle. Le sourire. C'est un outil. Le contentement, la joie, malgré l'épreuve, malgré les difficultés. Mais donner aux enfants et dire, Seigneur, moi j'avale mes sentiments, j'avale mon ressenti, j'avale peut-être mes peines, mais je vais donner un sourire à mes enfants. Je vais vraiment leur offrir donc un contexte de sécurité. Oh, quand ils seront plus grands, ils vont comprendre des choses, mais surtout au départ, c'est vraiment, vraiment important. Être juste et raisonnable. Aujourd'hui, bien sûr, on prend beaucoup le dialogue avec les enfants. Moi, j'étais élevé par un père qui n'écoutait pas raison. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait rien à dire. Hein. On n'avait rien à dire. Mais si ce jour-là, ce n'était pas moi qui avais eu la faute, au lieu de mes 6 frères et sœurs, et qui se rendait compte que ma mère lui avait fait comprendre, mais tu as été trop dur avec Marc, alors peut-être il faudrait que tu ailles le voir et que tu lui dises que tu t'es trompé. Mais il venait. Et j'entendais Marc, et là il était dans sa chambre, et j'arrivais, il était à genoux à côté de son lit, il me disait, prie pour moi, parce que j'étais impatient, parce que je n'ai pas voulu considérer que peut-être ce n'était pas de ta faute cette fois-ci, etc. Alors c'était important d'être juste et raisonnable. Aujourd'hui, les enfants et les jeunes, ils rétorquent à leurs enfants, à leurs parents. Quand moi j'ai grandi, on n'avait pas le droit de rétorquer. C'est sûr et certain. On n'avait pas le droit de rétorquer. On n'avait pas même le droit de dire, oui, mais est-ce qu'on pourrait dialoguer? Ok, les choses ont changé. J'accorde. Je sais que le jour est venu quand ma sœur, Joy, a dit à mon père, papa, tu sais qu'on a peur de toi. Car tu es un homme, vraiment, tu es comme un bulldozer, voilà, tu es vraiment efficace dans ton travail et tout. Mais quand tu arrives à la maison, il faut que tu te poses, il faut qu'on puisse prier ensemble, etc. On a peur de toi. Et mon père nous a tous rassemblés, nous a demandé pardon, avec des larmes aux yeux. Il a dit, mais moi, je ne veux pas vous perdre, je ne veux pas vous faire peur. Mais c'était vrai qu'il avait sa manière d'être, sa manière d'agir, mais plein d'amour, parce qu'il disait toujours, je t'aime. Quand il nous disciplinait, c'était il priait pour nous. À la fin de la fessée, il nous prenait dans ses bras. Je t'aime, je t'aime. Et c'est pour ça que des fois, même ça m'est arrivé, Seigneur, apaise ma colère parce que je ne veux pas décharger ma colère sur l'enfant. Sinon, je veux que l'enfant sache que je le discipline parce que c'est pour son bien. Comme il est dit en Hébreux chapitre 12. Et tout de suite, je t'aime, je t'aime. Et l'enfant, vous savez, une fois qu'il a reçu la fessée, il veut courir. Et toi, tu le tiens, je t'aime. Reste là, apaise-toi, apaise-toi. Je ne suis pas en colère contre toi. Apaise, apaise, apaise. Mais être juste et raisonnable. Au fil du temps individuel, des fois Denise me disait, mais tu sais chérie, Marc, tu sais, tel enfant n'exige pas trop d'attention, mais elle a besoin de toi aussi. Parce qu'il y avait, dans les sept enfants, il y avait ceux qui suscitaient beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de, voilà, des questions, etc. Il y avait d'autres qui étaient plus timides. Et voilà, elle disait, mais c'est important de passer du temps individuel. Et le Seigneur nous a donné sept enfants, donc il fallait qu'on valorise chaque enfant. Bien sûr, Denise l'a fait beaucoup plus que moi, mais alors les enfants aujourd'hui, ils se sont valorisés et ils savent qu'on a donné du temps. La preuve de l'amour, c'est le temps qu'on va donner. Être constant et stable. Être constant. Tu as dit une chose une fois, il ne faut pas que tu changes d'avis la prochaine. Être constant en tant que couple. Parce que les enfants aiment jouer avec le couple. Papa, maman a dit que non. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, mais comme je suis un peu fâché avec ta maman. Bon, je dis oui. Non, 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 non. Être constant et stable. On dialogue, on parle. On a une voix unie. On est un. C'est vraiment important. Être constant et stable. Ne pas réagir, mais être constant. Être ferme. On a établi une règle, on établit une discipline. On garde et on l'établit. Aussi, les outils pour élever nos enfants, c'est au fil des activités en famille. Pourquoi pas? Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, donc, mais apparemment, il y a des endroits où les personnes sont assises autour de la table en train de manger. Tout le monde a un téléphone dans la main et personne ne se parle. Parce que vous êtes arrivé d'aller au restaurant et vous voyez des personnes qui sont un couple qui est à une table et tous les deux sont en train de regarder les textos pendant 10, 15 minutes, 20 minutes. Ils ne se parlent pas. Alors, des activités en famille. Il faut pas dépenser beaucoup d'argent, mais c'est être créatif. Mais des activités en famille. Que les enfants sachent, que la famille sache que c'est important que les deux, les parents, le papa et la maman, ils veulent que les enfants donc sachent que c'est ensemble qu'on grandit. Aussi, Dieu nous a donné un discernement spirituel, les outils pour élever nos enfants. Le discernement. Priez, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Denise, parfois, elle disait, alors, c'est qui a fait ça? C'est qui? Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Les sept ont dit, c'est pas moi. Elle disait, vous inquiétez pas, je vais prier, Dieu va me le révéler. Et 20 minutes après, l'enfant venait, c'était moi. Bon, mais aussi, Dieu donne du discernement. Et surtout, savoir où est notre enfant spirituellement. C'est là où on va aller à genoux. On va intercéder, on va prier en langue. Quand on ne sait pas comment prier, Seigneur, on va prier en langue parce qu'on veut prier selon ta volonté. Seigneur, on veut exprimer donc le fardeau que tu mets dans notre cœur. Mais le discernement spirituel avec les enfants est tellement important que les enfants sachent qu'ils ne peuvent pas donc se jouer de nous parce que Dieu est avec nous, Dieu est avec eux. Il n'est pas d'un côté ou de l'autre, mais il est avec nous et Dieu nous donne un discernement spirituel. L'autorité de Dieu en vous. C'est un outil que Dieu nous donne pour élever nos enfants. Dieu nous a donné une autorité. C'est pas le fait de crier sur l'enfant qui montre qu'on a de l'autorité. Vous savez, des enfants de 2-3 ans doivent se dire, mais papa et maman, pourquoi tu cries? Mais c'est toi le papa, c'est toi la maman. Mais on pense que parce que si on hausse le ton, on montre de l'autorité. L'autorité de Dieu en nous, une autorité dans la douceur, être doux et humble de cœur, mais avec autorité. Mais il faut que l'enfant sache qu'il y a une autorité. Que quand il est sur notre toit, il y a une autorité. Et on va se soumettre à cette autorité. Les conduire dans une vie d'église, c'est un outil que Dieu nous a donné pour élever nos enfants selon Dieu. Ce n'est pas seulement le fait, oh là là, c'est dimanche, il faut qu'on les vienne un peu plus tôt, parce qu'on veut arriver à l'heure. Voilà, donc c'est important qu'on soit présent. Les conduire dans une vie d'église. Vous voulez que vos enfants, quand ils seront grands, viennent aux réunions de prière? Mais soyez présents. au moment des prières. Vous voulez que vos enfants servent le Seigneur? Venez, servez le Seigneur. Vous voulez que vos enfants participent au ménage? Mais venez et participez au ménage. Conduisez dans une ville d'église. Vous voulez que vos enfants aient à cœur de rendre visite à des personnes qui sont à l'hôpital, qui sont en fin de vie, qui sont dans des épreuves, etc. Mais montrez-leur que c'est ça aussi votre cœur. C'est ça aussi notre cœur. Les conduire dans la vie d'une église locale, la vision d'une église locale. L'évangélisation, c'est pour les enfants. Je me rappelle, il y a 20 ans, quand on sortait pour l'évangélisation, mais il y avait des sketchs des adultes, des sketchs des enfants. Il y avait les enfants, voilà, donc, qui étaient là, qui avaient aussi leur place. L'évangélisation, c'est pour enfants et pour parents. Je me rappelle, Monique, il faisait froid. Donc, elle disait, maman, je veux aller à l'évangélisation. Oui, mais il fait trop froid. Mais qui c'est qui va ramasser les traités que les gens jettent par terre? Ça c'était son fardeau. Il fallait qu'elle aille chercher les traités, enlever voilà ce qu'ils avaient froissé, et leur donner donc à un frère pour dire, mais voilà, tu as de nouveaux traités pour donner. Mais à l'âge de 5 ans, elle sentait ça. Les conduire dans une vie d'église. La vie d'église, si vous voulez que vos enfants soient l'église de demain, ils sont déjà à l'église, mais soient l'église de demain, mais il faut qu'ils participent et qu'ils vivent ce qui est la vie de l'église. Il y a des exigences, il y a une discipline. Il y a aussi l'outil que Dieu nous a donné, c'est l'exemple de notre vie. L'exemple de notre vie, c'est un défi bien sûr, c'est un défi pour nous tous, un challenge, mais l'exemple de notre vie ne fait pas ce que je ne dis pas, ce que je ne fais pas, fais ce que je dis, fais ce que je dis. Suis-moi, imite-moi comme moi j'imite aussi Dieu. Imite-moi comme moi j'imite aussi les principes de la parole de Dieu. Remplis ton cœur la joie d'aimer le Seigneur, de le servir comme tu le vois en moi. Et aussi la volonté de Dieu. Savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Savoir que nous sommes en train d'accomplir les desseins de Dieu. Il faut que l'enfant se sente en sécurité. Et oui, parfois, notre enfant ne va pas avoir la liberté de dépenser comme les autres enfants à l'école le font. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous avons d'autres priorités. C'est-à-dire, notre priorité n'est pas les biens matériels de ce monde. Nous avons un trésor dans le ciel. Nous sommes différents. C'est pas grave. Oui, moi, je veux regarder un tel bande dessinée. Ah non, tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses diaboliques dedans. Les enfants sont en train d'être, voilà, d'une manière chinoise, on essaye donc d'attirer leur attention. Il ne faut pas que la télévision devienne du babysitting. On ne sait pas ce que les enfants vont voir. Donc c'est à nous de veiller, c'est à nous de leur dire. Alors, on choisit une vidéo, il n'y a pas de pub. On choisit quelle est la vidéo, c'est pour le général public, c'est pour les enfants. On va le voir ensemble. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec la vie que nous menons, il faut qu'on se soucie d'avoir une arche pour sauver nos enfants et nos familles. Noé a dû construire une arche. Et Dieu lui a dit, construis cette arche. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par cette arche que le monde a été condamné. Alors, on doit apprendre à nos enfants à obéir, l'obéissance. On doit apprendre aussi à nos enfants que la désobéissance a pour conséquence la douleur. La douleur, la souffrance. Encore la discipline. Rappelle-toi la prochaine fois comment tu t'es senti et alors réfléchis. Ne commets pas les mêmes erreurs. Nous devons aussi leur apprendre le caractère sacré de ce qui est la vérité. L'amour constant et inconditionnel des parents. Nous devons leur apprendre la volonté de l'enfant doit être soumise à celle de ses parents. Nous devons leur apprendre aussi la responsabilité, la joie de travailler, le plaisir dans le travail. Vous savez, Brian, des fois, donc on lui disait, Brian, tu sais, il faut ramasser toutes les affaires, tous les jouets, etc. Alors Brian se mettait en chef. Et il donnait des ordres à tous les 6 autres enfants. Alors lui, il était bien donc à sa place, donnant des ordres et tout. Mais en 10 minutes, la pièce, elle était propre. Alors il avait fait un jeu. Alors bon, voilà, qui va être le premier, qui va faire ci, qui va faire ça. Donc il y avait un plaisir dans le travail. Je m'appelle une fois, donc mon père était là et quelqu'un lui a dit, mais est-ce que je suis obligé de faire la vaisselle? Non, tu as la joie de faire la vaisselle. C'est ton droit de faire la vaisselle. J'ai jamais oublié ça. Et ma mère qui disait, l'obéissance à moitié, c'est égal à la désobéissance. Oui, mais je suis venu quand même. Ah oui, mais tu as mis du temps. Quand nos parents appelaient, c'était, je suis à tes ordres. Et on ne disait pas, j'arrive. Je me rappelle une fois quand on avait, bon, il n'y avait pas donc les téléphones portables, mais il y avait donc l'internet et tout. Et alors, voilà, on a appelé un des enfants. Mais il faut que je déconnecte avec tous ceux avec qui je suis en contact sur l'internet, etc. Ils étaient, donc c'était un truc de classe. Et donc j'ai dit, non, on t'appelle. Non, tu effaces. Ah non, mais je ne peux pas. Il faut que je leur dise gentiment, au revoir. Donc à la prochaine, etc. C'est vraiment important d'apprendre à l'enfant qu'il y a un sens de responsabilité et de discipline. C'est les outils que Dieu nous a donnés. Est-ce que nous voulons que nos enfants glorifient le Seigneur? Que nos petits-enfants, le cas échéant, glorifient le Seigneur? Alors commençons en appréciant donc cet outil que Dieu nous a donné. Et bien sûr, la prière, construisons une arche pour sauver les enfants. Construisons une arche. Que les enfants sentent qu'il y a des limites qu'on leur impose. Oui, il y a des limites par amour. Oui, l'amour est ferme. Oui, l'amour est inconditionnel, mais en même temps, elle est exigeante. Et nos enfants vont grandir. Et les familles vont être donc à la gloire de Dieu. Et que le Seigneur puisse aussi répondre aux cris du cœur de ceux qui disent, Seigneur, j'entends un message sur la famille, sur les enfants, et ça me fait mal parce que j'aimerais aussi moi-même un jour donc être à la tête d'un foyer avec mon conjoint. Seigneur, viens et aussi réponds à ces cris. Mais entre-temps aussi, prenons l'attitude envers les nouveaux-nés dans la foi, les bébés spirituels, les jeunes qui grandissent autour de nous dans la foi. Prenons cette attitude, que vraiment le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui parce que tu nous aides, Seigneur, à accomplir ta volonté en remplissant la tâche, la responsabilité, la joie, Seigneur, de représenter des familles qui veulent te suivre, des familles qui veulent, Seigneur le Dieu, grandir en toi, des familles qui sauront prendre les bonnes décisions. Seigneur, des familles qui sauront, Seigneur le Dieu, arriver jusqu'au bout, arriver au bon port. Et que dans tout ce que nous sommes impliqués, cela soit porté sur la pensée de l'éternité. Si nous ne pouvons pas imaginer qu'un de nos enfants ne te suive pas, nous ne pouvons pas imaginer qu'un de nos enfants se dévie de ton chemin, nous ne pouvons pas imaginer qu'un de nos ados arrive à l'âge de 18 ans et qu'il nous dise « je laisse tomber ». Seigneur, je te demande de protéger, Seigneur oh Dieu, nos familles, de protéger, Seigneur, mais Seigneur oh Dieu, ta bénédiction sur nous. Aide-nous, Seigneur, dans nos difficultés. Aide-nous, Seigneur, dans nos moments de dialogue. Aide-nous, Seigneur, dans les moments, Seigneur, dans lesquels nous devons prendre des décisions. Aide-nous, Seigneur, en priant pour nos enfants, même nos enfants adultes, que tu les conduises dans tes voies. Tu les conduises, Seigneur, sur ton chemin. Seigneur, et que partout où ils seront, ils te servent d'une manière ou d'une autre. Qu'ils soient membres d'une église locale, quelque part. Si un de nos enfants doit, Seigneur oh Dieu, se détacher de la ville, se détacher de la famille, aller dans une autre ville, un autre pays, Seigneur, qu'ils te servent de tout leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, Seigneur, ce zèle dans le cœur des parents. Et nous sommes en tant qu'église, Seigneur aussi, à être sensibles. Car oui, Seigneur, l'amour, nous t'aimons toi. Nous aimons notre prochain, nous aimons nous-mêmes. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être en obéissance à ce que tu nous donnes. Tout ce qui contribue à la piété et à la vie est là. Toutes les questions que les enfants peuvent avoir, on peut avoir des réponses dans la Bible. Tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir les encadrer. Et Seigneur, que cette église, Seigneur, soit aussi un lieu de multiplication. Que les premiers disciples de Jésus soient les enfants qui sont au milieu de nous. Et ensuite, Seigneur, les nouveaux-nés dans la foi qui arrivent, qui viennent, Seigneur, au Dieu, avec une soif de te connaître. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles. Et que chaque fois qu'on vient ici, s'il y a des personnes nouvelles, s'il y a des personnes, Seigneur, qui sont en train d'être reconstruites par toi, tu es en train, Seigneur, de guérir leur cœur brisé. Donne-nous une sensibilité. Seigneur, que personne, Seigneur, oh Dieu, se contente d'avoir salué leurs 20 ou 30 amis. Mais Seigneur, qu'on soit tous, Seigneur, dans le soin, Seigneur, les uns pour les autres, avoir soin les uns des autres, s'encourager, Seigneur, faire passer un message de grâce et d'amour à chacun, Seigneur. Ce que lorsque nous nous rassemblons, nous soyons dans la joie, nous ayons hâte de nous revoir, pour nous dire, tu sais, tu as prié pour moi, tu m'as dit que tu prierais pour moi cette semaine, regarde ce que le Seigneur a fait. On se connaît à peine, mais j'apprécie ton intérêt, j'apprécie ton attitude de cœur, j'apprécie ton amour en tant que frère et sœur en Christ. Aide-nous, Seigneur, à vraiment, Seigneur, dépasser, Seigneur, toutes les travers, Seigneur, qu'on puisse arriver vraiment à être de ces saints qui sont perfectionnés constamment en vue de l'œuvre du ministère, du service qu'on accomplit chacun pour que le corps soit édifié. Et Seigneur, que notre présence ici, dans ce quartier, dans cette ville et dans ce pays, Seigneur, puisse laisser des traces, puisse laisser, Seigneur Dieu, établir, Seigneur, que ici, nous allons tenir, Seigneur Dieu, à la parole de Dieu. Nous allons, Seigneur, constamment, Seigneur, tenir à ce que toi tu as dit, ce que toi tu as écrit. Seigneur, que ta présence, Seigneur Dieu, soit dans nos vies, dans nos foyers et dans les foyers que nous représentons, même en tant que célibataires. Que ta paix inonde, Seigneur, le lieu de notre résidence, le lieu où nous habitons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 Seigneur.